Chapitre 78. Contradiction.
Ah, mais ils se sont retrouvés abandonnés, la nature du lien l'indique clairement, mais où, soudain, révélation, comme une soudaine fulguration chez les Chinov, nous devons en trouver un, pouvons-nous utiliser un avérite, pouvons-nous créer une arme? Extrait du diagramme, plancher 17, paragraphe 2. Une lettre sur deux commence par la première.
Dans le noir, les sphères violettes de Shallan donnaient vie à la pluie. Sans les sphères, elle ne pouvait pas voir les gouttes, simplement les entendre mourir sur les pierres et le tissu de son pavillon. Avec la lumière, chaque gouttelette d'eau étincelait brièvement en tombant, comme les sprènes des étoiles. Elle était assise au bord du pavillon, car elle aimait regarder tomber la pluie entre deux séances de dessin, tandis que les autres érudits s'asseyaient plus près du centre. Vatat et deux de ses soldats faisaient de même, l'observant comme des anguilles célestes surveillent un petit dans leur nid. Ça l'amusait qu'il se montre aussi protecteur. Il semblait extrêmement fier d'être ses soldats. En toute franchise, elle s'était attendue à ce qu'ils prennent la fuite après avoir obtenu leur grâce. Il s'était écoulé 4 jours depuis le début de la saison des pleurs, et elle appréciait toujours ce climat. Pourquoi le bruit étouffé de la pluie modérée lui donnait-il l'impression d'être plus imaginative? Autour d'elle, les sprènes de création s'évanouirent lentement, la plupart ayant pris la forme d'objets qui se trouvaient dans le camp. Des épées qui se dégainaient et se rengainaient à répétition. Des tentes minuscules qui se détachaient et flottaient sous l'effet d'un vent invisible. Son dessin représentait Jasna telle qu'elle était cette nuit-là, un peu plus d'un mois plus tôt, la dernière fois que Shallan l'avait vue. Appuyée sur le pont d'une cabine de navire plongée dans l'obscurité, la main repoussant ses cheveux libérés de leurs tortillons et tresses habituelles. Épuisée, terrifiée, dépassée. Le dessin ne représentait pas un unique souvenir fidèle, pareil à ce que Shallan utilisait généralement. C'était là une recréation de ce qu'elle se rappelait, une interprétation inexacte. Shallan en était fière, car elle avait capturé les contradictions de Jasna. Les contradictions, c'était ce qui rendait les gens réels. Jasna épuisée, et cependant toujours forte, plus forte même en raison de la vulnérabilité qu'elle dévoilait. Jasna terrifiée, et cependant courageuse, car l'un permettait à l'autre d'exister. Jasna dépassée, et cependant puissante. Shallan avait récemment essayé de faire d'autres dessins dans le genre de celui-là, synthétisés à partir de sa propre imagination. Ses illusions en pâtiraient si elle ne parvenait qu'à reproduire ce qu'elle avait vécu. Elle devait être capable de créer, pas simplement de copier. Le dernier sprain de création s'évanouit. Il imitait une flaque dans laquelle pataugeait une botte. Un creux apparut sur sa page quand Motif vint s'y placer. Il renifla. Des choses inutiles. Les sprains de création? Ils ne font rien. Ils se contentent de se balader et de regarder, d'admirer. La plupart des sprènes ont un but. Ceux-là sont simplement attirés par le but de quelqu'un d'autre. Shallan se laissa aller en arrière en méditant ses propos, comme Jasna le lui avait appris. Près de là, les érudits et les ardents se disputaient pour décider ce qu'avait été la taille exacte de siège des vents. Navani avait bien tenu son rôle, mieux qu'elle n'aurait pu l'espérer. Les érudits de l'armée travaillaient maintenant sous les ordres de Shallan. Autour d'elle, dans la nuit, un déploiement de lumière indénombrable, à la fois proche et lointaine, indiquait la largeur de l'armée. La pluie continuait à tomber doucement, capturant la lueur violette des sphères. Elle avait choisi toutes les sphères d'une même couleur. L'artiste et les sept, commenta Shallan à l'intention de Motif, a un jour mené une expérience. Elle n'a disposé que des sphères de rubis, à pleine puissance, pour éclairer son studio. Elle voulait voir quel effet la lumière entièrement rouge aurait sur son art. Répondit Motif. Pour quel résultat? Au début, pendant une séance de peinture, la couleur de la lumière l'a affectée très fortement. Elle utilisait trop peu de rouge, et les champs de bourgeons paraissaient délavés. Ce n'est pas inattendu. Mais le plus intéressant, expliqua Shallan, c'est ce qui se passait si elle continuait de travailler. Si elle peignait des heures sous cette lumière, les effets diminuaient. Les couleurs de ses reproductions devenaient plus équilibrées, ses dessins de fleurs plus vivants. Elle finit par en conclure que son esprit compensait les couleurs qu'elle voyait. Effectivement, si elle changeait la couleur de la lumière au cours d'une séance, elle continuait pendant un moment à peindre comme si la pièce était encore rouge, en réagissant contre cette nouvelle couleur. Répondit Motif, satisfait. Les humains sont capables de voir le monde tel qu'il n'est pas. C'est pourquoi vos mensonges peuvent se révéler si puissants. Vous êtes capable de ne pas admettre que ce sont des mensonges.
Ça m'effraie.
Pourquoi ? C'est formidable. À ses yeux, elle était un sujet d'étude. L'espace d'un instant, elle comprit comment Kaladin avait dû l'apercevoir lorsqu'elle parlait du démon des gouffres. Lorsqu'elle admirait sa beauté, l'esthétique de sa création, en ignorant la réalité présente du danger qu'il représentait.
« Ça m'effraie, » répondit Shallan, « parce que nous percevons tous le monde sous l'une ou l'autre lumière, qui nous est personnelle, et que cette lumière change notre perception. Je ne vois pas clairement. Je le voudrais, mais je ne suis pas sûre de le pouvoir un jour. »
Enfin, un motif perça le bruit de la pluie, et Dalinar Colline entra dans la tente. Le dos bien droit, les cheveux grisonnants, il ressemblait davantage à un général qu'à un roi. Elle ne l'avait jamais représenté. Comme ça semblait une omission grossière de sa part, elle captura un souvenir de lui en train d'entrer dans le pavillon, tandis qu'un aide de camp tenait un parapluie pour lui. Il s'approcha de Shallan.
« Ah, vous voilà, celle qui a pris le commandement de l'expédition. »
Avec un temps de retard, Shallan se leva précipitamment et fit la révérence.
Oui, au prince.
Vous vous êtes assuré les services de mes scribes et de mes cartographes, répondit Dalinar d'une voix amusée. Ils ne parlent plus que de ça. Ouri Tirou, siège des vents. Comment avez-vous fait ça?
Je n'ai rien fait. C'est la clarissime Navani qui l'a fait.
Elle affirme que vous l'avez convaincue.
Shallan rougit. En réalité, j'étais simplement là. Et elle a changé d'avis.
Dalinar fit un signe de tête brusque sur le côté, et son aide de camp s'approcha des érudits en train de débattre. L'aide de camp leur parla tout bas. Ils se levèrent, certains rapidement, d'autres avec réticence, et partirent dans la pluie, abandonnant leurs papiers. L'aide de camp les suivit, et Vatat se tourna vers Shallan. Elle hocha la tête et le congédia ainsi que les autres gardes. Bientôt, Shallan et Dalinar se retrouvèrent seuls dans le pavillon.
Vous avez dit à Navani que Jasna avait découvert les secrets des chevaliers radieux, déclara Dalinar.
En effet.
Êtes-vous certaine que Jasna ne vous ait pas induite en erreur d'une manière ou d'une autre? Demanda Dalinar. Ou autorisée à vous induire vous-même en erreur? Ça lui ressemblerait beaucoup plus.
Clarissime, je ne crois pas que ce soit.
Elle prit une inspiration.
Non, elle ne m'a pas induite en erreur.
Comment pouvez-vous en être sûre?
Je l'ai vue, répondit Shallan. J'ai été témoin de ce qu'elle faisait. Et nous en avons parlé. Jasna Colline n'utilisait pas de spiricante. Elle était elle-même un spiricante.
Dalinar croisa les bras et regarda derrière Shallan, en direction de la nuit.
Je crois que je suis censé reformer les chevaliers radieux. Le premier homme à qui j'ai cru pouvoir me fier pour cette tâche s'est révélé être un meurtrier doublé d'un menteur. Et maintenant, vous me dites que Jasna possédait peut-être un réel pouvoir. Si c'est la vérité, alors je suis un idiot.
Je ne comprends pas.
En désignant Amaram, expliqua Dalinar, j'ai fait ce que je croyais être ma tâche. Je me demande à présent si je ne me suis pas trompé depuis le début. Peut-être qu'il n'a jamais été de mon devoir de les reformer. Ils sont peut-être en train de se reformer eux-mêmes. Auquel cas, j'ai l'arrogance de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Vous m'avez donné grandement matière à réflexion. Je vous remercie.
Il ne souriait pas en prononçant ces mots. Il paraissait sincèrement perturbé. Il se détourna pour partir, joignant les mains derrière le dos.
Clarissime Dalinar,
l'appela Shallan.
Et si votre mission n'était pas de reformer les chevaliers radieux?
« C'est ce que je viens de dire, » répliqua Dalinar.
« Et si c'était plutôt de les rassembler ?
Il se retourna vers elle, avec l'air d'attendre la suite. Shallan en eut des sueurs froides. Qu'était-elle en train de faire ?
Je vais bien devoir finir par le dire à quelqu'un,
songea-t-elle. Je ne peux pas faire comme Jasna et tout garder pour moi. Tout ça est trop important. Dalinar Colin était-il la bonne personne ?
Eh bien, en tout cas, elle ne voyait personne de plus approprié.
Shallan tendit la paume et inspira, vidant l'une de ses sphères. Puis, d'une expiration, elle envoya un nuage de fulgiflammes chatoyantes dans les airs entre elle et Dalinar. Elle façonna avec lui une petite image de Jasna, celle qu'elle venait de dessiner, au-dessus de sa paume.
« Nom du Tout-Puissant !» chuchota Dalinar. Un unique spren de stupeur, pareil à un rond de fumée bleue, apparut au-dessus de lui et se déploya comme les ondes que fait naître une pierre tombant dans un étang.
Shallan n'avait vu ce genre de spren qu'un nombre limité de fois dans sa vie. Dalinar s'approcha, rempli de déférence, et se pencha pour inspecter l'image de Shallan.
« Vous permettez ? »
demanda-t-il en tendant la main.
« Oui. »
Il toucha l'image, qui se brouilla pour se retransformer en lumière changeante. Lorsqu'il retira le doigt, l'image se reforma.
« Ce n'est qu'une illusion, » expliqua Shallan. « Je ne peux rien créer de réel. »
« C'est incroyable !»
commenta Dalinar d'une voix si basse que le crépitement de la pluie la couvrait presque.
« C'est merveilleux !»
Il leva les yeux vers elle, et à sa grande stupéfaction, elle y vit des larmes.
« Vous êtes l'une d'entre eux. »«
Peut-être, plus ou moins, » répondit Shallan, mal à l'aise.
Cet homme si imposant, presque une figure héroïque, n'aurait pas dû pleurer devant elle.
« Je ne suis pas fou !»
poursuivit-il, cette fois davantage pour lui-même, semblait-il.
« J'avais déjà décidé que je ne l'étais pas, mais c'est différent de le savoir. Tout ça est vrai. Ils reviennent. »
Il tapota de nouveau l'image.
« C'est Jasna qui vous a appris ça. »«
Je suis plus ou moins tombée dessus toute seule, » répondit Shallan. « Je crois que j'ai été conduite vers elle afin qu'elle puisse m'enseigner. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour ça. »
Elle grimaça et reprit la fulgiflamme, le cœur battant à toute allure à cause de ce qu'elle venait de faire.
« C'est à vous que je dois donner la cape dorée, »
observa Dalinar en se redressant de toute sa taille, en s'essuyant les yeux et en retrouvant une voix ferme.
« C'est à vous que je dois confier leur commandement. Afin que nous...
Moi ?»
glapit Shallan, en songeant à ce que ça impliquerait pour son autre identité.
« Non, je ne peux pas. Enfin, clarissime, ce dont je suis capable n'est utile que si personne ne sait que c'est possible. Si les gens cherchent mes illusions, je ne pourrai jamais les duper.
« Les duper ?»
répéta Dalinar. Ce n'étaient peut-être pas les termes les mieux choisis pour lui.
« Clarissime Dalinar !»
Shallan se retourna brusquement, sur le qui-vive, redoutant soudain que quelqu'un ait vu ce qu'elle venait de faire. Une messagère agile approcha de la tente, ruisselante, des mèches s'échappant de ses tresses et adhérant à son visage.
« Clarissime Dalinar, par Shendi repéré, mon général !»«
Où ça ?»«
Du côté est de ce plateau !»
répondit la messagère à bout de souffle.
« Un groupe d'éclaireurs, probablement !»
Dalinar regarda tour à tour la messagère et Shallan, puis jura et sortit sous la pluie. Shallan jeta son carnet de croquis sur sa chaise et le suivit.
« Ça pourrait être dangereux !»
observa Dalinar.
« J'apprécie votre sollicitude, Clarissime !»
répondit-elle doucement.
Mais je crois que je serais capable de survivre à une lance en plein dans le ventre et que mes pouvoirs me guériraient sans la moindre cicatrice. Je suis probablement la personne la plus difficile à tuer de tout ce camp. »
Dalinar marcha un moment en silence.
« La chute dans le gouffre ? »
demanda-t-il tout bas.
« Oui, je crois que j'ai dû sauver également le capitaine Kaladin, même si j'ignore comment je m'y suis prise. »
Il répondit par un grognement. Ils marchèrent rapidement sous la pluie, qui trempa les cheveux et les habits de Shallan. Elle devait pratiquement courir pour suivre l'allure de Dalinar. La foudre soie des alétis et de leurs longues jambes. Des gardes accoururent, tous membres du pont 4, et se placèrent autour d'eux. Elle entendit des cris au loin. Dalinar fit signe aux gardes de s'éloigner afin de lui accorder, ainsi qu'à Shallan, un peu d'intimité.
« Êtes-vous capable de spiricanter ? » demanda-t-il tout bas. « Comme le faisait Jasna. »
« Oui. » répondit-elle. « Mais je ne m'y suis pas beaucoup entraînée. » ça pourrait se révéler très utile.
C'est également très dangereux. Jasna ne voulait pas que je m'entraîne sans elle, même si, à présent qu'elle n'est plus là, eh bien, je finirai par y venir. Je vous en supplie, Clarissime, n'en parlez à personne. Pour l'instant, du moins.
C'était pour cette raison que Jasna vous a accepté comme pupille, déclara Dalinar. C'est pour ça qu'elle voulait que vous épousiez Adolin, n'est-ce pas? Pour vous lier à nous.
Oui, répondit Shallan, qui rougit dans le noir.
Beaucoup de choses prennent davantage de sens à présent. Je vais parler de vous à Navani, mais à personne d'autre. Et je vais lui faire jurer de garder le secret. Elle en est réellement capable, si elle y est obligée.
Elle ouvrit la bouche pour répondre oui, mais s'arrêta. Était-ce ce qu'aurait dit Jasna?
Nous allons vous renvoyer au camp de guerre, poursuivit Dalinar tout bas en regardant droit devant lui, immédiatement, avec une escorte. Je me moque bien que vous soyez difficile à tuer. Vous êtes trop précieuse pour qu'on vous fasse courir des risques dans cette expédition.
Clarissime, répondit Shallan en pataugeant dans une flaque d'eau, ravi de porter des bottes et un caleçon sous la jupe. Vous n'êtes pas mon roi, ni mon haut prince. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Mon devoir consiste à découvrir Uri Tirou. Vous n'allez donc pas me renvoyer. Et je veux vous faire jurer, sur votre honneur, de ne révéler à personne de quoi je suis capable, à moins que je ne vous y autorise. Pas même à la Clarissime Navani.
Il s'arrêta net et la fixa d'un air surpris. Puis il émit un grognement, le visage à peine visible. Je perçois Jasna en vous.
Rarement Shallan avait-elle reçu un tel compliment.
Des lumières approchaient sous la pluie, des soldats portant des lanternes. Vatat et ses hommes les rejoignirent en courant, car on les avait laissés en arrière et le pont 4 le retenait pour l'instant. Très bien, Clarissime, répondit Dalinar à Shallan. Votre secret le restera pour l'instant. Je vous promets que nous en reparlerons plus en détail une fois cette expédition terminée.
Vous avez lu au sujet de mes visions ?
Elle hocha la tête. Le monde s'apprête à changer, poursuivit-il, avant de prendre une profonde inspiration. Vous me donnez l'espoir, un véritable espoir, de le faire changer dans la bonne direction.
Les éclaireurs en approche les saluèrent, et le pont 4 s'écarta pour laisser leur chef accéder à Dalinar. C'était un homme corpulent, vêtu d'un chapeau marron qui rappelait à Shallan celui que portait Voile, sauf qu'il possédait un large bord. L'éclaireur portait un pantalon de soldat, mais une veste en cuir par-dessus, et il ne semblait certainement pas entraîné au combat.
« Bashin !» lui dit Dalinar.
« Des Parchendi sur le plateau voisin, mon général !» répondit Bashin, doigt tendu. « Ils sont tombés sur une de mes équipes d'éclaireurs. Les gars ont vite donné l'alarme, mais nous avons perdu nos trois hommes. »
Dalinar jura tout bas, puis se retourna vers le clarissime Teleb, qui s'était approché depuis l'autre direction vêtu de sa cuirasse qu'il avait peinte en argent.
« Réveillez l'armée, Teleb. Donnez l'alerte générale. »«
Entendu, clarissime. »« Clarissime Dalinar !» reprit Bashin. « Les gars ont abattu une de ces têtes de coq afin de se faire eux-mêmes tuer. Mon général, il faut que vous voyez ça. Quelque chose a changé. »
Shallan frissonna, trempée et transie. Elle avait, bien entendu, apporté des vêtements qui supporteraient la pluie, mais ça ne signifiait pas pour autant qu'il soit confortable de rester en dessous. Bien que les autres portent des manteaux, il ne semblait guère gêné. Sans doute tenait-il pour acquis le fait de se retrouver trempé pendant la saison des pleurs. Encore un point auquel son enfance protégée ne l'avait pas préparé. Dalinar ne protesta pas quand Shallan se joignit à lui pour marcher vers un pont tout proche. L'un des modèles plus mobiles maniés par les équipes de Kaladin, qui portaient des imperméables et des chapeaux munis de visières. De l'autre côté du pont, un groupe de soldats traversait en traînant quelque chose qui poussait une petite vague d'eau devant lui. Un cadavre de Parchendi. Shallan n'avait vu que celui qu'elle avait découvert dans le gouffre avec Kaladin. Elle en avait fait un croquis un peu plus tôt, et celui-ci était très différent d'apparence. Il possédait des cheveux, enfin une sorte de chevelure. En se penchant, elle s'aperçut qu'ils étaient plus épais que les cheveux humains, et d'un contact trop lisse. Était-ce le terme adéquat? Le visage était marbré, comme celui des parches, celui-ci arborant des rayures rouges très nettes sur fond noir. Le corps était mince et fort, et quelque chose de saillant semblait pousser sous la peau des bras exposés. Shallan le tâta et le trouva dur et en relief, comme la carapace d'un crabe. En réalité, le visage était couvert d'une sorte de fine carapace bosselée juste au-dessus des joues, qui se poursuivait jusqu'à l'arrière de la tête.
Nous n'en avons jamais vu aucun de ce type, dit Bashina Dalinar. Regardez ces reliefs, mon général. Certains des gars qui ont été tués portaient des marques de brûlure. Sous la pluie, la chose la plus perturbante que j'ai jamais vue.
Shalan se tourna vers eux. Que voulez-vous dire en parlant de type, Bashin?
Certains Parchendi ont des cheveux, répondit l'homme.
C'était un sombre iris, mais il était manifestement très respecté, bien qu'il ne possède pas de grade militaire évident.
D'autres possèdent de la carapace. Ce que nous avons rencontré avec le roi Gavilar, il y a longtemps, ils n'avaient pas la même forme que ceux que nous combattons.
Ils possèdent des sous-espèces spécialisées ? Demanda Shalan. C'était le cas de certains crémillons qui travaillaient dans une ruche, avec différentes formes selon les tâches à accomplir.
Peut-être que nous réduisons leurs effectifs, suggéra Dalinar à Bashin, en les obligeant à nous envoyer l'équivalent des pâles iris pour se battre. Et les brûlures, Dalinar ?
Demanda Bashin en se grattant la tête sous son chapeau. Shalan inspecta la couleur des yeux du Parchendi. Possédait-il des pâles et des sombres iris, comme les humains ? Elle souleva une paupière. Au-dessous, l'œil était entièrement rouge. Elle hurla et recula vivement, portant la main à sa poitrine. Les soldats jurèrent, regardèrent autour d'eux, et la lame d'éclat de Dalinar apparut dans sa main quelques secondes plus tard.
« Les yeux rouges !» murmura Shalan. « C'est en train de se produire. »
« Les yeux rouges ne sont qu'une légende. »
« Chasna possède un carnet entier de références sur ce point, clarissime, » répondit Shalan en frissonnant. « Les néantifères sont là. Le temps nous manque. »
« Jetez le corps dans un gouffre !» ordonna Dalinar à ses hommes. « Je doute que nous puissions le faire brûler facilement. Maintenez tout le monde sur le qui-vive. Tenez-vous prêts pour une attaque ce soir. Il... Clarissime !»
Shalan se retourna vivement pour voir approcher une silhouette massive en armure, sa cuirasse argentée ruisselant d'eau de pluie.
« Nous en avons trouvé un autre, mon général !» déclara Teleb.
« Mort ?» s'enquit Dalinar.
« Non, mon général !» répondit le porte-éclat en tendant le doigt. « Il est venu vers nous de lui-même, mon général. Il est assis sur un rocher là-bas. »
Dalinar se tourna vers Shalan, qui haussa les épaules. Dalinar se mit en marche dans la direction qu'indiquait Teleb.
« Mon général ?»
demanda Teleb, dont la voix résonnait à l'intérieur de son casque.
« Est-il bien judicieux ?»
Dalinar ignora la mise en garde, et Shalan se précipita pour le rejoindre, rappelant Vatat et ses deux gardes sur son passage.
« Ne feriez-vous pas mieux de revenir en arrière ?»
demanda tout bas Vatat à Shalan.
Nom des foudres, comme son visage paraissait dangereux sous cette basse lumière, même si sa voix était respectueuse.
Elle ne pouvait s'empêcher de voir en lui l'homme qui avait failli la tuer quand il se trouvait dans les collines inconquises.
« Je ne risquerai rien, » répliqua-t-elle tout bas.
« Vous avez peut-être l'âme d'éclat, clarissime, mais vous pourriez toujours mourir d'une flèche dans le dos. »
« Peu probable, sous cette pluie, » répondit-elle.
Il vint se placer derrière elle et ne protesta plus. Il s'efforçait d'accomplir la tâche qu'elle lui avait confiée. Elle découvrait malheureusement qu'elle n'aimait guère être surveillée. Ils trouvèrent le Parchendi, après une marche sous la pluie, assis sur un rocher à peu près aussi haut qu'un homme. Il ne paraissait pas porter d'armes, et une centaine de soldats allaitis environ se tenaient autour de la base de son siège, lance tournée vers le haut. Shalan ne parvenait pas à distinguer grand-chose d'autre, car il était assis de l'autre côté du gouffre par rapport à eux, avec un pont portable en place pour rejoindre son plateau.
« A-t-il dit quoi que ce soit ?»
demanda tout bas Dalinar quand Teleb le rejoignit.
« Pas que je sache, » répondit le porte-éclat. « Il reste simplement ainsi là. »
Shalan regarda le Parchendi solitaire au-delà du gouffre. Il se leva et s'abrita les yeux pour les protéger de la pluie. En bas, les soldats changèrent de position, brandissant leurs lances dans des positions plus menaçantes.
« Scar !» lança la voix du Parchendi. « Scar, c'est vous ? Et Leiden ?»
Non loin d'eux, l'un des gardes, homme de pont de Dalinar, jura. Il traversa le pont en courant, et plusieurs autres hommes de pont le suivirent. Il revint l'instant d'après. Shalan s'approcha pour entendre ce que leur chef murmurait à Dalinar.
« C'est lui, mon général !» déclara Scar. « Il a changé, mais les foudres m'emportent si je me trompe. C'est lui, c'est Shen. Il a porté des ponts avec nous pendant des mois, puis il a disparu. Et maintenant, il est là. Il dit qu'il veut se livrer à vous. »